Alors, en guise de conclusion du module « L'égalité entre les femmes et les hommes en milieu professionnel dans le secteur privé et public », je voudrais revenir sur quelques idées dominantes qu'il faut retenir du module. La première de ces idées, c'est que il vous est sans doute apparu à travers les séquences que l'égalité professionnelle a fait son chemin et qu'aujourd'hui, c'est devenu une problématique légitime pour les organisations. Et je crois qu'il faut le marquer, le souligner et sans doute aussi s'en réjouir. Mais ça veut dire aussi que, à contrario, les inégalités professionnelles perdurent, se recomposent. En tout cas, il est difficile de soutenir que le sujet n'existe pas pour toutes les organisations, quelle que soit leur taille et quel que soit leur secteur d'activité. Je pense que ça, c'est une idée dominante, assez récente en elle-même. On peut dire que la légitimité de cette problématique, elle a 10 ans, à peu près 10-15 ans. C'est-à-dire qu'on peut dater la reconnaissance de cette légitimité autour des années 2000 dans la mouvance du débat sur la parité. La deuxième idée qui est complémentaire de la première, c'est qu'à partir du moment où la problématique de l'égalité entre les femmes et les hommes est devenue une problématique légitime dans les organisations, eh bien, l'État a produit du droit. Et un droit qui est de plus en plus proactif. C'est-à-dire que il est, comme sur toutes les autres lois ou les autres réglementations, enfermé dans un système de contraintes. Ça paraît aujourd'hui évident, mais ça a été très compliqué à faire admettre, à faire reconnaître, à la fois politiquement et juridiquement, que la question de l'égalité, quand elle n'est pas respectée, quand elle n'est pas traitée par les organisations, eh bien, finalement, doit être sanctionnée, y compris par des sanctions financières. Ça peut paraître étonnant, puisque le propre de la loi, c'est de déboucher sur un caractère obligatoire et de faire sanctionner l'obligation, y compris par la contrainte, lorsqu'il n'y a pas d'application de la loi. Eh bien, sur la question de l'égalité professionnelle, le recours à la contrainte, c'est-à-dire le fonctionnement normal du dispositif juridique, n'a pas été aussi simple à faire passer, y compris auprès des partenaires sociaux. La troisième idée, c'est que la question de l'articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, qui là aussi semblait relever d'une évidence pour toutes les personnes qui travaillaient sur les questions d'égalité professionnelle, tant ce qui se joue dans la sphère privée, dans la sphère familiale et dans la sphère professionnelle est interconnecté, notamment historiquement pour les femmes, eh bien, ça n'était pas aussi simple de considérer cette question comme étant une question non seulement relevant de la vie privée, mais aussi du domaine public et particulièrement de la vie professionnelle, donc qui nécessitait que les organisations s'en préoccupent. Alors aujourd'hui, la question de l'articulation est devenue une catégorie juridique à part entière qui a fait son entrée dans le droit du travail, comme elle a fait son entrée dans le droit de la fonction publique. Et non pas simplement à travers la question de la grossesse qu'il faut protéger, de la maternité qu'il faut réguler pour éviter que le traitement par les organisations ne porte atteinte à la santé des femmes et à leur carrière, mais comme une problématique générale, faisant l'objet d'une politique du droit, soit d'une politique issue de la loi, soit de politique issue de la négociation collective, eh bien, dont l'État et les partenaires sociaux doivent se préoccuper régulièrement dans le fonctionnement des organisations, comme la question du temps de travail, comme la question des salaires, comme la question de la formation. Alors ça, c'est véritablement un tournant. Quatrième idée, nous assistons à l'émergence de politiques du droit qui, à côté de cette politique de l'État de plus en plus contraignante, sont des politiques qui sont portées, bon, je n'ose pas tout à fait dire de la base, mais en tout cas par les dirigeants des organisations qui ont tendance à considérer, peut-être d'ailleurs dans le cadre d'une pensée économique néolibérale, que les politiques du droit produites par l'État sont contraignantes, qu'étant contraignantes, elles peuvent constituer des obstacles au changement. Donc, on va, en quelque sorte, non pas complètement s'en affranchir, mais en tout cas, essayer de fabriquer de la norme à partir de la vie de l'organisation, de ses stratégies, de ses contraintes, et on va insérer ces normes dans les politiques de gestion que l'on peut avoir, y compris de gestion des ressources humaines. C'est ce que l'on appelle les bonnes pratiques, avec beaucoup de guillemets, puisque ça pose tout de même la question de savoir qui est-ce qui va décider que la pratique est bonne, et par rapport à quels indicateurs on va décider de la qualifier de cette manière. Alors, ce droit produit par les organisations, qui, il faut bien le dire, relève tout de même très largement de l'initiative des employeurs, beaucoup plus que de la négociation sociale ou que du législateur, eh bien, va cohabiter avec ce droit dur. Et là aussi, ça peut poser des problèmes de conflit, de logique, et ça peut aussi poser la question de savoir s'il n'y a pas des risques d'évolution vers une certaine managérialisation de la loi, voire vers des risques de développement d'une conscience amoindrie du droit. Dernière idée qui est là aussi comme une espèce de fil conducteur dans ce module, c'est celle d'un droit qui est de plus en plus proactif, à tel point d'ailleurs que les lois récentes parlent d'égalité réelle entre les femmes et les hommes, ce qui peut aussi là sembler étonnant parce que l'égalité n'a de sens que si elle est réelle. Mais c'est bien la traduction qu'il y a un enjeu permanent qui n'est toujours pas réglé de passer de l'égalité formelle à l'égalité réelle. Et que dans la maîtrise de cet enjeu, pour réussir ce passage, eh bien là encore, le droit est convoqué. Et cela donne lieu à la production d'instruments juridiques inédits puisqu'il faut essayer de trouver des moyens de compenser des retards, de promouvoir des dispositifs extrêmement volontaristes et proactifs, avec en permanence la question du curseur, c'est-à-dire jusqu'où nos sociétés, les acteurs du travail, les acteurs de la fonction publique sont prêts à aller pour introduire des déséquilibres dans le contrat entre les femmes et les hommes, pour assurer ce passage de l'égalité formelle à l'égalité réelle. Ce que vous avez pu voir dans le module et dans les différentes séquences, c'est que ça suscite en permanence des controverses, c'est-à-dire qu'il y a un consensus général sur la question « il faut vraiment lutter contre les inégalités, il faut faire l'égalité entre les femmes et les hommes », mais néanmoins, à chaque fois qu'on parle quota, à chaque fois qu'on parle mesures pour faire de la représentation équilibrée des femmes et des hommes, à chaque fois qu'on parle de recrutement préférentiel du sexe sous-représenté dans des métiers qui sont très sexués aujourd'hui, eh bien, il y a des débats un peu sans fin sur le fait de savoir si on ne crée pas, on n'engendre pas de nouvelles ruptures qui pourraient potentiellement être discriminatoires. Donc la question des actions positives, des mesures proactives reste inscrite dans la production, dans la fabrication des normes et dans leur application. Et je crois que c'est une idée qu'il faut continuer à travailler parce qu'elle n'est pas encore en voie d'être complètement résolue, que ça soit dans le droit français, mais aussi dans le droit européen et dans le droit international. C'est vraisemblablement le prolongement du module sur lequel il faut continuer à réfléchir et travailler, c'est-à-dire jusqu'à quel point nos sociétés produiront des politiques du droit proactives pour tenter d'aboutir à l'objectif d'égalité réelle et jusqu'où elles sont prêtes à aller.